VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Dakar, 15h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Au Gabon, la capitale Libreville accueille jusqu'à vendredi une rencontre sur les afro-descendants, les descendants des esclaves transportés en Amérique pendant la traite des Noirs. La réunion s'inscrit dans le cadre de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 2015-2024 en Amérique. Une initiative de l'ONU visant à reconnaître un groupe dont les droits humains doivent être promus et protégés selon l'organisation internationale. Il y a 300 millions d'afro-descendants dans le monde et une grande partie de ces 300 millions portent encore les séquelles de la traite négrière dans leur vie de tous les jours, a déclaré au journal en ligne Gabon Review Marie-Evelyne Petrus-Berry, la représentante du programme des Nations Unies pour le développement au Gabon. Au Burundi, trois membres des Imbonerakure et la Ligue de jeunesse du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ont été tués et deux blessés par l'explosion d'une grenade mercredi soir dans un quartier du sud de Bujumbura, la capitale. Ces Imbonerakure, un mouvement que l'ONU qualifie de milice, étaient réunis dans une maison de Guy Koto dans le quartier de Moussaga. Lorsqu'on a entendu une explosion vers 18h, temps universel, a expliqué un témoin. Une source policière contactée par l'AFP a souligné qu'il était difficile de déterminer les circonstances exactes de l'incident et de savoir s'il s'agissait d'une attaque extérieure ou d'un accident. Burundi toujours, Reporters sans frontières attire l'attention sur un pluralisme de façade du paysage médiatique dans le pays. Et deux ans après la destruction des médias indépendants, RSF fait le bilan de la situation. Les explications de la responsable du bureau Afrique de RSF, Cléa Kahn-Sribert, jointe à Paris par Eric Manirakiza.
Ça fait deux ans que les principales radios qui émettaient depuis Bujumbura, mais dans tout le pays, ont été fermées de force. Et depuis, le Burundi n'a pas retrouvé le même niveau de liberté d'information, d'accès à des opinions contradictoires, de débats, etc., qui était permis, qui était rendu possible par la multiplicité de ces radios. De toutes ces radios considérées comme indépendantes qui ont été fermées, seulement une a réouvert avec une équipe renouvelée, notamment au niveau de la direction. C'est la radio Isanganiro et elle a dû s'engager à suivre une certaine ligne éditoriale et aujourd'hui il y a plusieurs témoignages qui montrent qu'elle n'est pas aussi libre qu'elle l'était par le passé. Donc clairement la liberté de ton mais pas dans la liberté de couvrir des informations et d'intérêt public n'existe plus en l'état au Burundi.
Est-ce que vous pensez que le contexte le permet vraiment pour revenir à l'environnement médiatique qu'on connaissait il y a deux ans?
La situation peut revenir à une situation apaisée si les pouvoirs en place donnent des garanties démocratiques. Or là, on a l'impression qu'on va quand même dans le sens inverse puisque maintenant on parle même d'un quatrième mandat. Le gouvernement s'est entêté dans son opposition à tout dialogue démocratique et donc maintenant la situation est vraiment très compliquée.
Ces médias ont essayé de travailler tant bien que mal à partir de l'exil, mais elles fonctionnent dans une extrême précarité.
Enfin, oui, après c'est des médias qui sont importants de soutenir. C'est vrai qu'ils souffrent aussi, en plus de la précarité dont vous avez parlé, du fait qu'ils sont éloignés des sources d'informations premières et qu'en plus les journalistes qui veulent leur servir de relais sur le terrain depuis le Burundi sont régulièrement menacés et donc de moins en moins osent participer à ces médias. Donc c'est des médias qui sont évidemment dans une situation très fragile.
Vous parlez justement de l'accès aux sources au Burundi, c'est très compliqué.
Oui, c'est extrêmement compliqué. Beaucoup d'instances du gouvernement sont dans une grande défiance vis-à-vis des médias. Il y a aussi un système de contrôle qui s'est accentué, avec notamment le fait de devoir se déclarer dans les localités quand on veut couvrir un sujet. Alors, c'est pas une paranoïa, parce que ça a l'air assez justifié, mais disons vraiment une omerta qui s'est installée au Burundi, où les gens n'osent pas parler. Il y a vraiment un règne de la crainte, parce que, je pense, le gouvernement aussi est passé dans un mode assez arbitraire de répression. Sans qu'il y ait vraiment de compte à rendre. Quand la police ou le SNR vous arrête, vous n'êtes pas du tout garanti de pouvoir en sortir et le risque est clair de disparaître, qui est arrivé notamment au journaliste Jean Biguerimana.
Cléa Kahn-Sribert à Paris.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Nigeria, les autorités nigérianes sont revenues ce jeudi sur leur déclaration de la veille, démentant maintenant qu'une jeune fille échappée cette semaine des mains du groupe djihadiste Boko Haram était l'une des 219 adolescentes kidnappées en 2014 dans leur lycée à Chibok. Le gouvernement nigérian avait annoncé hier qu'une autre fille du groupe avait été retrouvée par l'armée nigériane alors qu'elle fuyait ses ravisseurs. Dans un message envoyé à l'AFP aujourd'hui, Laolu Akande, porte-parole de la vice-présidence, a reconnu que l'adolescente ne fait pas partie des 219 lycéennes kidnappées en avril 2014, bien qu'elle soit issue de la même ville du nord-est du Nigeria et ait fréquenté la même école. Mali, première visite dans le pays de Jean-Pierre Lacroix, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU depuis sa prise de fonction. Le responsable onusien a annoncé hier le prochain déploiement d'une force d'intervention rapide composée de casques bleus sénégalais dans le centre du Mali, où se sont multipliées depuis 2015 attaques et violences intercommunautaires. La MINUSMA, la force onusienne sur place, est la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vie humaine depuis la Somalie en 1993-1995, avec plus de 70 casques bleus tués en opération. Actualité américaine maintenant, nouvelle surprise à Washington où hier soir l'ancien directeur du FBI, la police fédérale, Robert Mueller, a été nommé au poste de procureur spécial pour superviser, je cite, l'enquête sur les efforts du gouvernement russe pour influer sur l'élection présidentielle de 2016 et questions connexes. Fin de citation, les précisions de Jean-Roger Bion.
En annonçant la nomination de Robert Mueller, le ministre adjoint de la Justice, Rod Rosenstein, a tenu à préciser qu'elle ne signifiait pas que des crimes ont été commis et que des poursuites étaient nécessaires. M. Rosenstein était plutôt sceptique ces derniers jours sur la question du procureur spécial, mais en se fondant sur des circonstances uniques, a-t-il estimé, il est maintenant dans l'intérêt public de confier l'enquête à une personne qui a un degré d'indépendance par rapport à la hiérarchie du département de la Justice. En réaction, le président Donald Trump, sans mentionner M. Mueller, a déclaré dans un communiqué « Une enquête complète confirmera ce que nous savons déjà. Il n'y a eu aucune collusion entre mon équipe de campagne et une entité étrangère », ajoutant « Je suis impatient que cette affaire se conclue rapidement ». Robert Mueller a dirigé le FBI et la police fédérale américaine pendant 12 ans, de 2001 à 2013, sous George W. Bush, puis Barack Obama, avant d'être remplacé par James Comey, dont le limogeage la semaine dernière par le président Trump a suscité un tollé. Selon la presse américaine, le président aurait demandé à M. Comey de mettre un terme à une enquête sur Michael Flynn, l'ancien conseiller présidentiel à la sécurité nationale, qui avait induit en erreur sur ses contacts avec les Russes.
Relation Afrique-France, quelles seront les grandes orientations de la politique africaine de la France après la formation du premier gouvernement Macron? Écoutez l'avis d'un spécialiste, Mathieu Collet, président de Euro Agency, une agence de communication politique et de diplomatie publique.
Emmanuel Macron a dit pendant sa campagne « J'agirai en Afrique en toute transparence, loin des réseaux de connivence ». Il sous-entendait probablement deux types de réseaux, certains réseaux économiques et certains réseaux plus diplomatiques et de soutien, on va dire, à des chefs d'État non élus démocratiquement. Par exemple, il avait pris ses distances avec Bongo, on le sait. Mais il avait dit aussi « La politique de normalisation engagée par François Hollande doit aller à son terme ». Donc ça veut dire qu'il va avoir, à mon sens, une diplomatie surtout économique à côté de la lutte contre le terrorisme, l'engagement militaire, du rôle de stabilité que joue la France et que la France souhaite assurer. Il y a une chose qui est importante à souligner, c'est le fait que Le Drian soit ministre des Affaires étrangères, donc ça indique qu'il y a une forte continuité, une certaine continuité, notamment en termes de défense, de politique militaire et de positionnement de la France sur l'espace stratégique. Je pense que une des préoccupations d'Emmanuel Macron, c'est que les entreprises des deux continents se parlent, enfin, françaises et africaines se parlent, et ça, ça va être vraiment primordial. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer à défendre et à soutenir les grands groupes français et leurs intérêts, donc là, je ne vois pas de rupture fondamentale. Mais voilà, je pense que la politique de développement, la francophonie, va demeurer un point important de diplomatie, et en particulier de diplomatie économique.
Mathieu Collet, directeur de l'agence de communication Euro Agency. Et pour terminer, en Iran, l'électorat sera aux urnes demain, vendredi, pour choisir un nouveau président. Le modéré Hassan Rouhani brigue un second mandat face à un conservateur religieux proche de l'ayatollah Khamenei, Ebrahim Raisi. Le taux de participation est la grande inconnue de ce scrutin qui se tient dans un climat de tension avec les États-Unis. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.